La politique dans Corneille par Henri de Bornier. Chapitre 1er. Napoléon Ier disait « Il y a un grand vide dans la tragédie française. Aussi, jusqu'à présent, la tragédie sur notre théâtre, sauf quelques rares essais, est demeurée grecque ou romaine. Ce vide, d'où vient-il? De l'absence complète d'une pensée supérieure à l'action dramatique, ou, si vous aimez mieux, d'un ressort caché qui fasse tout mouvoir. Les anciens avaient la fatalité à laquelle leur dieu même était soumis, et cette intervention était toute naturelle puisque les événements de leur drame se mêlaient à leur religion. Chez nous, il n'en est pas de même. Il existe une séparation complète entre le théâtre et l'Église. Celle-ci même frappe l'autre d'anathème. Il faut donc chercher ailleurs, à défaut de la religion, qu'on ait recours à la politique. Oui, dans le drame moderne, la politique doit remplacer la fatalité. » Le mot est juste. Le drame moderne, ce sera la politique, comme la tragédie antique fut la fatalité. Mais Napoléon, en donnant ce conseil et en exprimant ce désir, oubliait que le conseil avait été suivi d'avance et le désir accompli. Il oubliait que le théâtre de Corneille était fondé tout entier sur cette base simple et forte, la politique. Ajoutons que Napoléon ne l'oubliait pas toujours et qu'il a dit, dans une de ses bonnes heures, « Si Corneille vivait, je le ferais prince. » Il n'a pas dit, comme on le croit vulgairement, « je le ferais ministre. » Celui qui a changé le mot pensait sans doute qu'il y a plus de gloire ou d'avantage à être ministre qu'à être prince. Que la tragédie de Corneille soit avant tout politique, cela n'est plus à démontrer. Mais comment Corneille entendait-il la politique? Quelle était sa doctrine sur les grandes questions qui divisent les hommes, sur la raison d'État, sur la gloire, sur la haine de peuple à peuple, de prince à prince, de citoyen à citoyen, sur le despotisme, sur l'anarchie? C'est ce que je me propose de rechercher. Gardons-nous cependant de croire que le poète du Cid et de Cinna ait eu l'ambition d'écrire une sorte de code politique, de faire du théâtre une cour de cassation qui prononcerait le jugement définitif sur toutes les causes célèbres que l'histoire nous a léguées. Non. Il savait que si l'embarras est grand pour l'homme de juger les hommes de son temps, plus grand encore est l'embarras de juger les hommes du passé. Il savait que les actions humaines ont des motifs innombrables et aussi divers que nos cœurs. C'est pour cela que dans toutes ces tragédies, chaque phase de la question à résoudre est présentée tour à tour avec la même force et la même impartialité. C'est pour cela que beaucoup des scènes les plus célèbres de son théâtre sont de véritables plaidoyers, par exemple le cinquième acte d'Horace tout entier. Il est à remarquer en effet que si l'on trouve dans Corneille la passion de la justice, cette justice prend rarement l'accent de la colère. Vous n'y trouverez ni Phèdre écrasant Œnone de ses imprécations contre les flatteurs, ni la haine farouche de Joade contre Athalie. En présence même d'Attila, le poète n'éclate pas en longs coups de foudre, et les victimes du fléau de Dieu résument leurs anciennes douleurs et leur joie présente par ce simple mot « Notre tyran n'est plus ». Mais cette impartialité philosophique et religieuse n'empêche pas Corneille de ramener la politique à une idée supérieure qui dominera toute son œuvre. Cette idée, c'est que le bien de l'État doit être la règle de tout homme, qu'à l'intérêt public, tous les intérêts particuliers doivent céder, et que tout prince, tout citoyen qui viole cette loi supérieure est coupable et sera fatalement puni. Tout homme, au contraire, qui observe cette loi, même quand il doit en souffrir, sera récompensé par l'admiration reconnaissante de l'humanité. La raison d'État, voilà donc toute la politique de Corneille. Seulement, c'est là un mot à la fois vague et terrible. Poison ou remède, selon la main qu'il emploie. Néron s'en servait comme Marc Aurèle. À quel signe pourra-t-on reconnaître le poison et le remède, la bonne raison d'État et la mauvaise? Corneille répond. La bonne raison d'État est celle qui a pour but l'amélioration du sort des hommes. Plaindre et aimer l'homme, c'est le rôle du drame. Hélas, le rôle est difficile. Il y avait au Moyen-Âge un adage latin que Bacon, je crois, nous a transmis. Homo homini lupus, mulier mulieri lupior, sacerdos sacerdoti lupissimus. Cet adage contient deux barbarismes dont il est impossible de rendre l'énergie. L'homme est un loup pour l'homme, la femme est encore plus loup pour la femme. Ce qu'il y a de plus loup, c'est le prêtre pour le prêtre. Au lieu de prêtre, lisez « Gouverneur d'homme » et vous aurez l'histoire du monde. Toutes les douleurs que l'humanité enfante ou supporte viennent de cette haine éternelle entre ceux qui la gouvernent. Éthéocle et Polynice, placés au seuil du drame comme au seuil de l'histoire, ont donné la note horrible qui retentit à travers l'histoire. « Frères, haïssez-vous !» crient ces deux rois monstrueux à tous les bourreaux de l'humanité future. Corneille leur dit « Aimez-vous !» Ils disent cela aux rois, aux princes, aux ministres, aux hommes d'État, afin qu'en s'aimant eux-mêmes, en s'épargnant les uns les autres, ils épargnent le monde, afin que la clémence descende des grands aux petits, afin que le pâtre obscur profite d'une trêve entre les Césars et les Pompées, qui le traînerait de tous les Rubicons à toutes les Pharsales. Ainsi comprise, la raison d'État, la politique de Corneille, est la plus haute leçon de patriotisme, de vertu, d'honneur, de justice, d'humanité qu'un poète ait jamais donnée. J'ajoute qu'elle contient pour l'action dramatique les éléments les plus nombreux, les plus intéressants et les plus variés. Un rapide coup d'œil va vous en convaincre.